Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
C'est l'heure des bulletineuses de la colline avec Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Bonjour Yasmine.
Bonjour. Bonjour Antoine.
On dit bulletineuse puisque tous les vendredis, nous remplissons avec elle le bulletin de nos élèves de la colline. On remet des bonnets d'âne et des méritas. Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Commençons par Sophie. Bonnet d'âne, rudesse.
Oui, rudesse. Une attitude à laquelle, on n'est pas habitué dans l'enceinte du Salon Bleu de la part du leader parlementaire du gouvernement.
Je vais faire un bruitage ici.
Hey, aïe, 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 aïe.
Il a frappé sa table, Simon-Jolin Barrette.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Simon-Jolin Barrette est d'un calme, normalement. C'était le robot de François Legault.
Oui.
Et là, on était très loin du robot. Là. On s'est retrouvé dans une situation où il a complètement perdu les pédales.
Vraiment? Puis pour un mot qui était...
On
a entendu des pires là, à l'Assemblée nationale.
On a entendu des beaucoup pires.
Moi, j'étais là, puis je l'ai vu, puis j'étais... On a tous sursauté. J'étais dans les tribunes au Salon Bleu, j'en revenais pas.
Ses collègues, le président, l'opposition, tout le monde a fait le saut. C'était vraiment incompréhensible.
Yasmine, comment tu as vu ça?
Mais il faut dire qu'il n'a pas eu une bonne semaine. Tu sais, la semaine dernière, on lui a donné le méritage de l'empathie, puis cette semaine, là... pour Simon-Jolin Barrette, là, quelques minutes avant, là, tout le monde l'oublie, il s'était fait ramasser par le président de l'Assemblée nationale pour finalement, il voulait pas s'asseoir quand le président s'est levé pour donner des directives. En plus de ça, le premier ministre qui repousse sa fameuse réforme sur la langue française qui est tant attendue, pas une bonne semaine pour Simon-Jolin Barrette.
Oui. Juste pour rappeler pour les auditeurs, là, c'est que Marie Montpetit a fait une erreur dans une question la semaine passée sur les fameux variants. Elle avait un courriel qui finalement n'était pas un courriel du cabinet, qu'elle a présenté comme un courriel du cabinet. Donc, cette semaine, elle est revenue sur la question. Puis, Christian Dubé lui a dit « Ah, enfin une bonne question! » Puis là, ça l'a fâché, elle. Ben, ce qui était... C'était bon, peut-être un peu paternaliste, mais il y a beaucoup de paternalisme à l'Assemblée nationale, tout le monde se reprochant des choses.
Et condescendant conviendrait peut-être un peu mieux dans le contexte que paternaliste. Parce
exactement.
Que bon, si ça avait été moi, j'aurais pu faire le même genre de commentaire.
Mais t'as raison, Yasmine, et ça a été mon réflexe aussi. Je me suis dit, il est tanné d'attendre après sa réforme de la loi 101. Puis hier, François Legault nous a encore dit que ça serait repoussé. On a senti que ça allait être jusqu'en juin, alors que Mélanie Joly dépose aujourd'hui, si je ne m'abuse, son plan de réforme de la loi sur les langues officielles.
Ah oui, puis Mélanie Joly fait beaucoup de bruit avec ça. Je pense qu'elle sent le malaise aussi, puis qu'elle en profite pour prendre tout l'espace qui est laissé libre par l'absence d'action du gouvernement du Québec.
Exactement. Yasmine, bonnet d'âne, enquête publique.
Enquête publique, là, je sais qu'on est l'opposition officielle est encore revenue pour ça. Puis, comprenez-moi bien, là, l'enquête publique, là, moi aussi, je pense que c'est nécessaire, que c'est important, que ça doit être fait, qu'il faut mettre la lumière sur toute la gestion de la pandémie. Pour moi, c'est juste la question de est-ce le bon moment maintenant? Est-ce que aujourd'hui, alors qu'on est en train de se battre contre de nouveaux variants, qu'on est en train d'avoir des problèmes de dépistage, de délestage, toutes sortes de problèmes en matière de santé publique, est-ce que c'est le moment aujourd'hui là de demander l'enquête publique? Je pense qu'il y a des questions beaucoup plus pertinentes et qui seraient stratégiquement plus payantes pour l'opposition officielle que de demander l'enquête publique aujourd'hui, mais je vais le redire, là, je pense que c'est nécessaire, puis c'est légitime et c'est important de le faire, mais je ne sais pas si c'est la bonne stratégie pour l'opposition officielle.
Et ils reviennent avec ça à chaque période de questions, hein, Sophie?
Oui, puis le mandat qu'ils semblent vouloir donner à cette commission-là est d'une grandeur incroyable. Je veux dire, on veut parler de mesures économiques, de collaboration interministérielle,
contrat,
de ventilation, de contrat, d'impact sur la persévérance scolaire. Je veux dire, ça va durer 25 ans, cette affaire-là.
Exactement. Ça a été mon réflexe. Moi, j'ai même fait une chronique là-dessus, puis j'ai reçu Dominique Anglade hier à l'émission, et j'ai compris qu'elle était quand même de plus en plus ouverte à accepter autre chose qu'une commission d'enquête. Donc, il y a une évolution. J'étais content de voir cette évolution-là parce que, en plus, ces commissions d'enquête ont comme été discréditées hein, par la commission Charbonneau qui a duré 4 ans, qui avait un mandat aussi extrêmement large. C'est ça. Là. Et les commissions d'enquête, c'est compliqué maintenant. C'est des quasi-tribunaux.
C'est très compliqué.
Ça prend un avocat qui contre-interroge. C'était pas comme ça dans le temps de la commission Clich puis tout ça. Là, c'était...
Et ça coûte cher.
Ben oui.
Ça coûte extrêmement cher. Il vient un moment où il faut être capable de tracer un état de la situation, reconnaître des choses qui ont moins bien fonctionné, puis rapidement se mettre en action pour que ça change. C'est ça que les gens entendent.
C'est ça. Méritas, déstabilisation, Sophie.
Oh là là. Marie Montpetit, quand même, a réussi à déstabiliser cette semaine le ministre Dubé. Là, on revenait sur la situation de la semaine dernière, mais cette semaine, le courriel... qu'elle a présenté, a sorti un bon lapin de son chapeau.
Oui.
L'information sera pas... En fait, ce que disait le courriel, c'est que, advenant le cas où il y avait des variants en établissement, l'information ne serait pas communiquée à la population, on comprend, pour essayer d'éviter la panique.
Puis ben oui.
Le ministre, est surpris d'entendre ça, de lire ça, vraisemblablement un peu ébranlé. Et... tente après ça d'apaiser puis de parler de transparence. C'était... plus ou moins crédible.
Oui, exactement.
Mais ça rappelle Mario Dumont dans un certain débat, de campagne électorale quand il avait sorti de son chapeau un courriel à propos du viaduc à Laval là, qui s'était écrasé. Ça, ça m'a beaucoup rappelé ça, là, tu sais, la déstabilisation qui vient avec ça.
Oui, ça avait assez bien marché. Bonnet d'âne maintenant, Yasmine. Bonnet d'âne, ministre à côté de la plaque.
Oui, ben en fait, à une question de Gaétan Barrette, député de la Pinière et critique en matière d'éthique, qui demandait au gouvernement, de se prononcer sur l'octroi de contrats publics qui n'ont absolument rien à voir avec la pandémie, qui n'ont absolument rien à voir avec la santé publique, notamment un contrat de gravel au Chic-Choc. Mmh. Et le ministre Dufour, avec une réponse complètement à côté de la plaque, qui était presque en train de dire que le contrat avait été fractionné, une pratique qui, rappelons-le, est illégale.
Ben oui.
Une réponse qui est très malhabile de la part du ministre Dufour. Heureusement que le lendemain, la présidente du Conseil du Trésor est venue au secours de son collègue et a rappelé l'existence de l'Autorité des marchés publics qui, s'il le juge utile, enquêtera sur un potentiel fractionnement. Mais M. Dufour a encore une fois mis le gouvernement dans l'embarras avec des réponses mal ficelées, mal préparées et surtout mal exprimées. Là, c'était pas fort.
Et sur le mauvais sujet.
Parce que sur le mauvais
sujet. M. Barrette, il a posé la question sur le gravier la semaine passée. Puis là, la question portait sur le contrat de 2,8 millions pour le transport de bagages. Un contrat Exactement. De gré à gré, 2,8 millions. Moi, à la CEPAC, on m'a expliqué que c'était un contrat, un appel d'offres d'il y a 10 ans. C'est pour 10 ans. Donc, on a mieux... Pourquoi le ministre ne l'a pas dit en chambre? D'abord, il n'a pas répondu là-dessus.
Il ne connaît pas son dossier. Il ne connaît pas le dossier.
Et c'est ça.
Il n'est pas préparé. Et ce n'est pas la première fois que M. Dufour démontre qu'il n'est pas préparé à la période de questions. Si je faisais partie de son cabinet, disons que je ferais des dry runs pour période de questions le matin.
Ah oui, c'est bon ça.
Une et une autre.
C'est quoi des dry runs? Rappelle-le.
On fait des pratiques, on faisait dans le temps des pratiques, là, on se transformait en opposition officielle, puis on posait toutes les questions qui pouvaient être posées, qu'elles soient gentilles, qu'elles soient méchantes, et on voit le degré de préparation du ministre face à toutes les questions, puis s'il connaît ses dossiers, s'il a la bonne ligne, tant politique que dans le contenu.
Méritas, bon sujet maintenant, Sophie.
Oui, la députée d'Abitibi de Québec solidaire, Émilise
L'essart-terrien.
L'essart-terrien, merci Antoine, mon plan de mémoire, qui est sorti cette semaine en question sur les acquisitions gouvernementales. Il faut rappeler que à son arrivée en poste, le gouvernement a créé une nouvelle entité, le CAGE, qui devient comme le centre d'acquisition gouvernementale qui vient regrouper le CSPQ, les différents organismes qui existaient à travers le Québec d'acquisition gouvernementale et qui sort avec un angle qui, moi, me rejoint beaucoup là, de venir dire... On prive
avant,
des entreprises.
Avant, c'était le centre des services partagés, c'est ça?
Exact, le centre de services partagés. Puis, il y avait d'autres centres d'acquisition au niveau des technologies aussi. Donc, il y avait plusieurs entités au gouvernement qui étaient responsables des achats. Et le gouvernement vient créer cette espèce de super regroupement d'achats qui vient globaliser. Et là, tu sais, ce qu'elle nous explique, c'est que des fournisseurs locaux qui étaient en mesure de fournir pour, par exemple, des hôpitaux, des centres de services scolaires, du matériel dans des quantités moindres, se retrouvent pénalisés et par rapport à des contrats nationaux qui vont parfois même pas procéder à des achats au Québec parce que les prix sont moins bons. Donc, bonne question, bon angle. On appelle ça des questions un peu champ gauche. On n'est pas collé sur l'actualité, mais on défend nos entreprises, nos citoyens. Fait que c'était un angle intéressant. Bonne question.
Yasmine, un mot sur ce Méritas?
Ben moi, j'ai trouvé ça, c'est une excellente question parce que ça incarne aussi la réalité des PME en région qui dépendent de certains contrats avec des acteurs gouvernementaux locaux pour pouvoir opérer. Moi, Émilie, quand elle parlait, tu sais, aujourd'hui, là, les agrafeuses, puis les crayons, puis les stylos, puis les feuilles vont devoir être achetés à Québec pour l'Abitibi-Témiscamingue et pour feu les commissions scolaires en région, alors qu'actuellement, les fournisseurs locaux pouvaient répondre finalement à ces besoins-là. Très bonne question, très bon angle. Malheureusement, pas une assez bonne réponse.
Ouais. Et on souffle le chaud et le froid aussi en nous disant qu'il faut favoriser l'achat local. On nous parle du panier bleu, on nous explique à quel point c'est important d'encourager nos entreprises locales. Et de l'autre côté, on crée une entité qui fait de l'achat regroupé et qui prive des petites PME de région de beaux contrats gouvernementaux qui leur permettent d'atteindre une certaine forme de stabilité et de réussite. Bonne question, bon angle. On continue on l'encourage à continuer dans cette voie-là.
Elle se démarque, Émilie Lessart-Terrien, vraiment, de Québec solidaire.
Tout à fait.
Yasmine, maintenant, tu remets un bonnet d'âne boomerang maintenant.
Ben, en fait, au PQ en général, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, avec toute la question des listes électorales qui ont été vérifiées pour voir si les enfants, les deux fils de M. Legault...
C'était pour coincer M. Legault, hein, pour dire... Parce que M. Legault dit « mes deux fils vivent avec moi ». Puis là, ils ont fait des vérifications.
Ils sont partis vérifier dans la liste électorale pour vérifier si François Legault vivait bien avec ses deux enfants ou pas. Mauvaise utilisation de la liste électorale, une utilisation qui est non éthique et ça leur est revenu finalement comme un boomerang en période de questions. Finalement, on n'a jamais eu de réponse claire là-dessus, ni dans le Salon Bleu, ni en point de presse de Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais clairement, ça fait quelques jours que le PQ lance des flèches qui finissent par lui revenir. Et une stratégie à revoir, ça c'est certain.
Dans la catégorie des conseils gratuits, là, les attaques contre les familles et les politiciens,
ouais.
Allez plus là. C'est pas une bonne idée.
Non, c'est ça. Méritas, tir groupé maintenant. Yasmine?
Tir groupé, c'est dans le... Pour le ministre Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, cette semaine est sorti pour dire que ça ne fonctionnait pas l'octroi des places subventionnées en service de garde partout en région, que 2 ans après avoir occupé ce ministère, il considérait que la bureaucratie, et je le cite, gangrène le ministère. Le problème, c'est que ce qu'il propose, c'est un livre blanc au mois de septembre.
Ça
c'est
pas de bon
ça la réponse qu'on offre quand on dit que la bureaucratie gangrène, que les familles attendent des places en service de garde. C'est on dit une chose et son contraire. Alors, Véronique Yvon et Marc Tanguay, Véronique Yvon, députée de Joliette et critique en matière de famille, et Marc Tanguay, députée de La Fontaine pour le Parti libéral et critique en matière de famille aussi, ont été très incisifs en chambre parce que, et finalement, ils ont mis le ministre Lacombe devant ses contradictions.
Qui s'en était bien sorti avec sa fameuse son aveu de dire « Ah, ben ça va pas, il faut donner un coup de pied dans la bureaucratie », mais en même temps, tout le monde, à un moment donné, s'est retourné vers lui et a dit « Ben, c'est toi le responsable ».
Non, mais il y a quelque chose de plus bureaucrate qu'un livre blanc, là.
Mais oui, en plus. Exactement.
Est-ce que ça lui a pris 2 ans pour se rendre compte qu'il y avait de la bureaucratie
ben au oui.
de la famille?
Puis il a livré quoi, 2000 places sur les 13 500 promises? En tout cas.
Alors,
c'est bien communiqué.
C'est un peu problématique.
C'est ça, bien communiquer, c'est une belle qualité pour être un bon politicien, mais encore faut-il que les actions suivent. Là.
C'est ça. Sophie, maintenant, bonne édane, mauvaise préparation?
Oui, mais cette semaine, la ministre Charest, qui est ministre déléguée à l'éducation, sport et loisirs, qui est là le mercredi. Bon, on se rappelle que avec la formule actuelle, l'Assemblée nationale, il y a 2 équipes. Il y a une équipe qui fait les périodes de questions du mardi et du jeudi, puis une équipe qui fait les périodes de questions du mercredi. On se plaît à l'appeler
l'équipe B.
C'est pas toujours très gentil. Ceci dit, il y en a qui nous donnent raison, malheureusement. Il y en a qui nous donnent raison. On comprend pas. À une question qui était pourtant pas si compliquée, puis pas si dure à voir venir non plus, relativement à la santé mentale, au camp pédagogique, puis à comment on pourrait s'assurer de faire en sorte que nos enfants qui sont touchés par la situation puissent avoir de meilleurs services. On dirait qu'elle...
Elle n'a pas compris même ce que c'était, je pense, que le camp pédagogique...
C'était pas... C'était manque de préparation. Donc, tu sais, puis je comprends, là, puis on l'a déjà dit, je le dis encore une fois, d'avoir à répondre à des questions qui sont pas dans nos dossiers du quotidien. Tu sais, elle peut pas avoir le même degré de préparation que le ministre Roberge. C'est normal, le ministre de l'Éducation, le ministre en titre est là-dedans tous les jours.
Mais elle sait que le mercredi, elle est là, donc faudrait mieux se préparer.
Dry run.
On peut-tu dire ça en français? Une répétition générale?
Oh. C'est pas la même chose. C'est malheureusement, je suis d'accord avec toi, Antoine, il faut faire un meilleur usage du français, là. Mais il y a des expressions consacrées en anglais qui disent des choses qu'on peut pas dire comme ça.
Je vais trouver.
Trop.
Comptez sur mon oncle 101 pour trouver. Hey, merci beaucoup, les bulletineuses.
Merci, Antoine.
Merci. Bonne semaine.
C'était Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Sophie est maintenant présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Et c'est ce qui met fin à La haut sur la colline pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.
Ce segment politique vous est offert par Article 79, surveillance parlementaire. Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à Article 79. Résumé des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets, nominations et tous les travaux parlementaires. Voyez les forfaits et abonnez-vous sur article79.com.